Je peux goûter comme ça ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Alors aujourd'hui, zoom sur le tofu.
C'est quoi exactement d'ailleurs le tofu ?
En fait, le tofu, c'est ni plus ni moins que du lait de soja qu'on va cailler avec un coagulant naturel du chlorure de magnésium issu de la mer. Donc c'est très naturel tout cela.
Ah, ça c'est étonnant.
Tofu in Chinese. Tofu.
Mais l'avantage du tofu, c'est qu'il absorbe tous les arômes des ingrédients avec lesquels on le cuisine.
Oui, aïe, aïe.
Tu sais que tu peux faire ton tofu toi-même.
Ça, c'est le dessert. Ah non, hein? Non, ça, c'est la viande. Ah.
240 grammes de tofu.
Tofu.
Équivaut à un steak haché de 100 grammes à peu près.
Ah, ça, c'est étonnant.
Tous pour le tofu.
Allez.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Et si on appréciait enfin le tofu à sa juste valeur, sans passer pour un bouffeur de graines à poils longs revenu des années hippies. D'où vient-il ? Comment le cuisine-t-on pour qu'il soit vraiment bon ? Quels sont les grands mérites nutritionnels du tofu ? Tout, vous saurez tout sur le tofu avec nos deux invités du jour qui vont nous guider dans le monde touffu du tofu. Camille Auger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice culinaire, reporter, photographe installée à Nice, hein ?
Oui.
Vous êtes venue tout spécialement pour nous ? Absolument. Et de là-bas, vous êtes niçoise, il faut bien le préciser. Et vous publiez alors vraiment une somme sur le tofu après des dizaines et des dizaines de voyages en Asie. Tofu, l'anthologie aux éditions de la plage avec 400 pages consacrées à cet aliment qu'on rencontre beaucoup dans les pays d'Asie que vous avez côtoyés, avec des conseils pratiques. Il y a même un protocole pour fabriquer du tofu à la maison, de très nombreuses recettes chinoises, japonaises, indiennes, mais également des recettes occidentales. C'est ça qui est intéressant pour les végétariens ou les véganes. Vous nous avez apporté une tarte aux poireaux, mais sans protéines animales.
Mm-hmm.
Et également quelque chose qui est censé réconcilier tout le monde avec le tofu. Vous allez nous faire découvrir tout à l'heure cette recette, chère Camille. Et si le tofu était aussi le nouveau Graal des grands chefs, c'est ce qu'on va voir avec Christophe Moret. Bonjour.
Bonjour.
Merci Christophe d'être là.
Avec plaisir.
Vous étiez déjà venu, si ma mémoire est bonne, nous parler tomates, nous parler betteraves.
C'est ça.
Vous adorez le végétal, on l'a compris, et le tofu en particulier. Vous êtes le chef de l'Abeille, la table gastronomique 2 étoiles Michelin de l'hôtel Shangri-La à Paris. Et vous allez nous raconter cette passion pour le tofu, comment vous l'avez rencontré, comment vous le cuisinez. Vous nous avez même apporté un superbe tofu made in France, mais de très haute qualité, qu'on va déguster dans le cours de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs en ce dimanche matin, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin du jour, Antoine Gerbel, bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Le tofu vous enchante ?
Tofu.
Tofu de tofu. Déborah ?
Mais moi j'ai mis mon plus beau pull couleur moutarde pour être assorti à ma recette d'œuf mimosa.
Je n'y crois pas. Sans œufs ?
Bah écoutez, ça.
C'est incroyable.
Visuellement, on est d'accord, j'ai bien des œufs. À l'odeur, nous avons des œufs.
Visuellement, ça fait vraiment la blague. On va voir si gustativement ça se passe bien. Crash test de l'œuf mimosa sans œufs tout à l'heure, mais avec, on l'a deviné, du tofu. Antoine.
Et moi, j'ai tiré le gros lot, pardon. Le grand Lot. Un exceptionnel vin blanc du Lot signé par des bourguignons. Cherchez l'erreur.
C'est un bourguignon. Il se pourrait que ce soit un patronyme.
Exactement.
Un nom de famille, absolument. On va découvrir cette très belle aventure bachique tout à l'heure avec vous. Antoine, on accueille également un gastronome en culotte courte qui fait son stage de 3e dans la maison de la radio. C'est Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Il paraît que tu écoutes beaucoup On va déguster.
C'est tout à fait vrai.
On en est super flattés. Et tu nous viens de Nantes.
Exactement.
Quel collège ?
Collège Guistot.
Et il paraît que tu aimes le tofu.
Oui, le tofu Mapo surtout, c'est délicieux.
Waouh, il connaît ça, le Mapo tofu, il va nous expliquer ça tout à l'heure. Bah voilà, c'est notre cobaye consentant aujourd'hui, il passait par là et bah hop. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Arnaud Caillet à la technique et Nadia Chougui à la préparation. Les recettes de nos invités à base de tofu, nos infos pratiques, les podcasts de nos émissions et de nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Allez, juste avant notre voyage dans le monde du tofu, je vous propose un coup de cœur comestible. Est-ce que vous aimez la pizza, les amis ?
Oui. Ah oui.
Oui.
Ah, Christophe Moret a parlé.
Forcément.
Ah oui. Eh bien, je suis allé vous en dénicher une super pizza. Pizza Napoletana, c'est vraiment une très belle pizza dans le nord de Paris. Nous sommes rue Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement, un petit village dans la ville, à 2 pas du cimetière du Père-Lachaise et de la porte de Bagnolet. Et cette pizza de compétition, je suis allé la tester avec une experte, napolitaine évidemment.
Mi chiamo Alba Pezzone, amoureuse et passionnée par la pizza.
Giuseppe Cutraro. Il est napolitain, expatrié à Paris. Il a toujours travaillé dans la pizza. C'est un jeune pizzaiolo. Notamment, peut-être que vous l'avez déjà croisé chez Big Mama, où il officiait au four à bois. Donc depuis, il en a fait du chemin parce qu'il a gagné l'année dernière le championnat du monde de la pizza contemporaine à Naples. Donc c'est le pizzaiolo champion et nous sommes ici chez lui dans le 20e arrondissement, donc chez Pepe.
Pepe, c'est le surnom de Giuseppe Cutraro, donc ce napolitain trentenaire qui prend la pizza très au sérieux. Il a créé son propre mélange de farine avec une proportion de farine intégrale. Il a mis au point un pétrissage complexe, une fermentation de la pâte de 30 heures. Il façonne la pizza du bout des doigts sans jamais la graisser. Il l'a garnie d'ingrédients impeccablement sélectionnés et il l'a fait cuire dans un four à Kunto. C'est vraiment la Rolls des fours napolitains. Pepe façonne évidemment sa pizza championne du monde parce qu'il a gagné un titre en 2019. Vous voulez connaître la recette de cette pizza signature ?
Bien sûr.
Elle était vraiment délicieuse. Tomate jaune, mozzarella di bufala, jambon sans Daniel, amandes toastées avec quelques petites pointes de confiture de figues. Mais nous, avec notre dégustatrice Alba Pezzon, on s'est concentré sur la margherita.
La base.
Comment vous la définiriez, cher Christophe ?
C'est la pizza d'origine, c'est la pizza qui nous a fait découvrir la pizza. Il y a rien pour cacher si c'est pas bon.
Exactement.
Voilà,
donc c'est pour ça que c'est un bon étalon quand on veut tester une pizzeria, on commence par la margherita.
Il y a pas d'ananas ni de kiwi ?
Oui, non, voilà, c'est pas la pizza hawaïenne, c'est la vraie pizza napolitaine avec le vert basilic, le blanc mozzarella, le rouge tomate, c'est les trois couleurs du drapeau italien et on a vu arriver à notre table une très belle napolitaine aux formes rebondies avec des trottoirs bien boursouflés, bien gonflés, aériens, alvéolés. Et cette margherita se coupe au ciseau.
Et là, on voit l'ustensile de la pizza contemporaine. On n'est pas chez le coiffeur, on n'est pas chez le couturier, on est chez un pizzaiolo.
Bella.
Leggera.
La pâte sublime. La tomate sublime. Encore légèrement crue. Comme si on avait une tomate presque fraîche. Alors, le basilic en double cuisson, très intéressant. Côté un peu chips qui est passé au four, et très très frais, aromatique, ce qui a été posé dessus. Et le fior di latte, bah, très bon, qui ne s'écoule pas, qui ne fait pas d'eau. Je mange tout.
Et elle a presque tout mangé, Alba Pezzon. Cette margherita à 11 euros et c'est franchement une belle partie de plaisir. Pepe pour des pizzas napolitaines, traditionnelles ou contemporaines, de rue Saint-Blaise, Paris 20e. Alors c'est fermé le lundi, mais c'est ouvert tous les autres jours de la semaine. Il y a déjà beaucoup de monde. C'est même ouvert le dimanche. Alors buona pizza a tutti. Dans un instant, une émission Tofu tout flamme, juste après une petite mise en condition musicale assurée par notre programmateur Djoubaka. Plum Blossom, ça veut dire fleur de prunier. Hein, vous connaissez Camille Auger. Vous connaissez l'artiste chinoise Li Changlang ?
Non.
Ah, et ben je suis heureux de vous faire découvrir cet artiste d'origine chinoise. Vous êtes bien à la table dont on va déguster sur France Inter.
va déguster.
On le mange cru, mais généralement bouilli et agrémenté d'herbes, de poissons et d'autres choses. Mangé seul, il est insipide, mais très bon agrémenté et excellent frit dans du beurre. Ils ont aussi du tofu, séché et fumé, ou mélangé à des graines de karvi, le meilleur de tous. Si je ne m'abuse, les Chinois de Manille en font, mais aucun Européen n'en mange, car ils n'y ont jamais goûté.
Quand Domingo Navarrete, un missionnaire dominicain espagnol qui voyagea beaucoup à Manille, Canton, Macao, raconte sa découverte du tofu en, tenez-vous bien, 1665. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup à Daniel Fievé pour sa lecture. Hein. Daniel Fievé, notre voisin de bureau qui nous met du vent dans les synapses tous les samedis après-midi sur France Inter. C'est un récit, Camille Auger, qu'on a pioché dans votre anthologie sur le tofu et qui montre qu'étonnamment, en fait, la rencontre entre les Occidentaux et cet aliment très répandu dans toute l'Asie, finalement, est assez ancienne.
17e.
Mais il n'y a pas vraiment eu de carrière du tofu dans nos pays, en fait.
On a attendu pas loin de 3 siècles, oui, pour ça, que vraiment le tofu s'impose.
Comment il s'imposait, d'ailleurs, parce que c'est assez récent?
C'était, je pense, grâce aux hippies.
Années 70, donc.
Qui ont donné un espèce d'élan à toute cette alimentation végétarienne. Mmh. Et le tofu a trouvé sa place naturellement dans tout ça. Mais jusque-là, je pense, le tofu, d'ailleurs, comme en Inde, s'imposait pas, parce que tout simplement, on avait le fromage. Les deux sont très très proches.
Alors, définition du tofu pour ceux qui sont totalement perdus et qui sont à deux doigts de couper leur transistor. Quand vous dites qu'il y a un parallélisme étonnant entre nos fromages, c'est-à-dire nos produits lactés, fermentés, à base de lait d'animaux, et le tofu, qui est finalement un produit alors végétal, mais également fermenté, à base d'un certain lait.
Le tofu n'est pas fermenté, il peut l'être. Et le fromage n'est pas forcément fermenté, il y a des fromages frais. Le tofu, c'est pareil, en fait. D'ailleurs, on appelait ça fromage de pois au départ, quand on allait en Indochine, en France, qu'on a rencontré le tofu, on parlait de fromage de pois, parce que le principe est le même. D'ailleurs, les Chinois ont commencé à faire du tofu probablement parce qu'ils ont rencontré des tribus mongoles ou indiennes qui maîtrisaient la coagulation du lait et qui leur montraient comment faire ce lait coagulé. Et ils se sont dit, bon, on va faire la même chose avec du lait de soja. Donc c'est vraiment un fromage végétal à partir de lait végétal qui est ensuite coagulé, caillé et égoutté. Après, on peut le faire fermenter si on veut, aller plus loin dans la ressemblance avec nos fromages qui puent, en faisant du tofu qui pue.
Parce qu'il y a le tofu puant de Chine.
Bien sûr.
Je ne me suis jamais livré à cette expérience. Ah oui, non, mais il y a des photos dans votre livre. Votre livre est un voyage absolument étonnant dans la culture du tofu, mais également dans sa façon de le cuisiner. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et on se rend compte à quel point, effectivement, il y a des parallélismes entre tous les produits qu'on connaît. Il y a des produits à base de lait de soja, donc du tofu, mais extrêmement délicat, voire soyeux, qui pourraient ressembler un peu à nos yaourts, tous nos faisselles. Il y a des tofus qui sont beaucoup plus fermes, un peu comme certains de nos fromages. Il y a des tofus effectivement dont l'affinage est assez poussé et qui du coup déclenche quand même une certaine odeur. Christophe Moret,
oui.
Vous avez un parcours incroyable. Moi, j'aime votre parcours. Vous avez vraiment un CV en acier massif, Côte d'Azur avec Jacques Maximin, Bruno Cirino. Vous avez été un long compagnon de route d'Alain Ducasse, notamment chef 3 étoiles de son restaurant Le Plaza Athénée à Paris, et j'en passe. Le tofu, évidemment, ça faisait pas partie de votre culture culinaire classique française.
Pas vraiment.
Vous l'avez découvert quand?
Spoon, dans les années 2000.
Rappelez-nous ce qu'était Spoon.
Spoon, c'était le premier restaurant un peu multiethnique qu'avait ouvert Alain Ducasse. C'était un peu un ovni à l'époque quand on a ouvert ce restaurant. C'était 1 plus 2 plus 3 égale un plat. Donc déjà, tout le monde était perdu.
Oui. Et en même temps, très joli succès de Spoon, oui, qui a été, on va pas dire copié, mais qui a été très influent, ce modèle-là, dans le monde entier. Hein.
Oui.
Restaurant fusion au sens noble du terme.
Voilà. Et il y avait une grande tendance végétale déjà à l'époque. Hein. On avait les premières salades germées, on avait des pots de céréales et on a découvert le tofu. C'était pour nous aussi une façon assez facile de pouvoir donner une protéine à un végétalien. Donc, on a commencé à travailler pas mal sur le tofu. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur extraordinaire qui s'appelait Monsieur Suzuki, qui est maintenant décédé, malheureusement, qui nous faisait un tofu extraordinaire. Donc, il importait la graine du Japon.
Et là, on parle de soja, donc. Hein.
Oui, la graine de soja était cultivée.
Le soja étant, pardon de vous couper, Christophe Moret, oui, mais le soja étant en fait une légumineuse cousine plus ou moins éloignée de nos pois chiches, lentilles, etc. Le soja jaune ou le soja noir.
Oui, on peut utiliser les deux pour faire du tofu, mais le soja jaune est beaucoup plus courant. Ouais.
Donc il importait la graine du Japon, il la recevait au Havre, il allait la chercher, il travaillait dans les Yvelines, et toutes les semaines, il nous livrait son tofu.
Voilà, donc un tofu made in France, mais pratiqué, fait vraiment à la japonaise.
Exactement. On fait tremper les graines pendant une nuit,
ouais.
Hein, et après, en fait, on le cuit, et après, on le presse. Mm-hmm. Je crois que le chinois, lui, s'est pressé à froid, il n'y a pas de cuisson, et c'est cuit après.
Ça,
il y a
ça
tellement
dépend,
de techniques, mais...
En Corée, c'est encore différent. En fait, chaque pays... fait intervenir la cuisson à différents moments, mais le résultat est assez similaire en général.
Le tofu, en fait, pourquoi j'ai commencé à le travailler, c'est parce qu'en fait, j'ai rencontré ce bonhomme. Et ce bonhomme, je me suis dit, mais attends, il est incroyable, il a 80 ans, il fallait voir.
Un japonais installé dans les Yvelines.
Il portait sa caisse comme ça, il souffrait en portant sa caisse, mais il était tellement fier de nous amener ce tofu. J'ai dit, bon, bah, forcément, il faut qu'on travaille ça, et on a commencé à faire des recherches.
Et quelques grands chefs étoilés ont commencé à travailler ce tofu assez exceptionnel. La belle histoire, c'est que, certes, il est malheureusement décédé, cet ouais. artisan japonais, ouais. mais il a cédé, entre guillemets, transmis oui. son savoir-faire à d'autres japonais d'une génération plus jeune
Tout
qui ont repris, en fait, le business, entre guillemets.
C'est ça. Et en fait, c'est incroyable, là, parce que Monsieur Suzuki a rencontré plusieurs personnes qui voulaient reprendre son affaire et, en fait, personne ne lui convenait. Et en fait, un jeune couple de japonais est venu les voir. Ils se sont dit, mais on peut pas laisser perdre ce savoir-faire et nous, on va reprendre cette entreprise. C'est complètement utopique, hein. Ils en vivent pas. Ils sont remarquables. Ils sont installés au Mans. Ils ont une pâtisserie et ils nous font ce tofu. Ils ont continué à perdurer la recette de Monsieur Suzuki.
Profitons-en pour leur faire un petit coup de promo puisque c'est Suzu Tofu. Personnellement, je n'ai jamais goûté leur tofu, mais ouais. la bonne nouvelle, c'est que ça va changer aujourd'hui parce que vous nous l'avez apporté.
Exact.
Et en plus, il est accessible au grand public.
Oui.
Le grand public peut commander ce tofu pour des prix en plus tout à fait raisonnables. Il est également distribué dans des épiceries japonaises à Paris, mais on n'est pas écouté qu'à Paris.
Il est distribué quand même.
Il est distribué, vous nous l'avez apporté. Alors, on a une dégustatrice incroyable. Combien de voyages au Japon? Combien de voyages en Chine? Camille Auger est absolument Asie mutée.
beaucoup. Ça fait 17 ans que je vais au Japon. J'y passe en général 3 mois par an. La Chine, beaucoup aussi, mais on n'a pas le droit de rester aussi longtemps en Chine pour des raisons de visa. Mm-hmm. J'ai habité aux Philippines, j'ai habité à Taïwan.
Dans tous les pays où on mangeait du tofu, finalement.
Je suis allée, voilà, à peu près dans tous les pays où on mange du tofu, oui.
Sachant que le pays d'origine, c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup du tofu, ne serait-ce que parce que l'origine du mot tofu est japonaise, alors qu'en fait, c'est un savoir-faire chinois. On est d'accord là-dessus?
Oui. Le mot est plus facile à prononcer en japonais, parce que c'est un syllabaire très propre, tofu. Si on devait le dire à la chinoise, ce serait moins bien. Et moi-même, je le prononce très mal, daofu.
Enfin, c'est pas mal, il paraît que vous parlez cantonais.
Pas bien.
Okay. Daofu, donc on va se contenter du mot tofu, mais en tout cas, c'est une invention entre guillemets chinoise.
Oui.
Alors, goûtez ce suzu tofu, oui. qui est un tofu made in France, à base de soja jaune, importé du Japon.
Exact. Et celui-là, c'est le tofu cotonneux.
Tofu cotonneux. Ah, ça peut peut-être donner okay. l'indication d'une texture.
En fait, simplement parce qu'il est pressé dans une toile de coton. Donc il l'appelle le tofu cotonneux et en fait, il a une texture assez proche, moi je trouve d'un flan.
Ah, ouais. Une crème aux œufs.
Oui, ça ressemble beaucoup à ça.
Sans le goût des œufs.
Sans le goût des œufs. Ouais, plus neutre.
Glissant sous le palais, mais avec un peu de texture. Un goût effectivement assez neutre, mais extrêmement délicat, des légers goûts de noisette, non?
Ça, c'est dès qu'on a du bon soja, on retrouve ce petit goût noisette.
Vous aimez ou pas?
Ouais, j'adore. Ouais, je le trouve très bon.
Qu'en pense Baptiste, notre cobaye?
C'est vraiment délicieux, mais même si c'est pas agrémenté d'herbes ou quoi que ce soit, ça a quand même une saveur, je trouve.
Oui.
C'est incroyable.
Tu la définirais comment, cette saveur?
C'est presque un chouïa sucré, je dirais.
C'est doux,
presque
hein.
manger ça le matin, par exemple, c'est vraiment délicieux.
Mais ça, au petit déjeuner, avec juste quelques condiments, c'est top. Hein. Quelques herbes fraîches, c'est un excellent petit déjeuner.
Bah justement, alors on va pas dévoiler tout de suite cette recette, mais elle me fait de l'œil, parce qu'il m'a fait une drôle de surprise quand même, Christophe Moret, on va la raconter tout à l'heure. Bon, j'ai des origines lyonnaises évidemment, qui dit cuisine lyonnaise dit cervelle de canut, ce fameux fromage blanc battu avec des herbes fraîches, de l'échalote, etc. Il a osé me faire une cervelle de canut végétalienne qu'on va goûter dans un instant, c'est extraordinaire. Mais tout d'abord, on va essayer une recette que vous avez très souvent expérimentée auprès de certains amis, de certains carnivores même, pour les convaincre de manger un peu de tofu, parce que on a une suspicion en général à l'égard du tofu, où on dit que c'est un peu l'aliment tout en fadeur, qui n'a pas vraiment d'intérêt, et qu'on laisse globalement aux végétariens ou aux végétaliens en France.
C'est un peu ça. Certaines générations sont particulièrement difficiles à convaincre. J'ai remarqué que les hommes de plus de 50 ans, c'était vraiment la cible à essayer de
On a Christophe Morel, si je peux me permettre, il adore ça.
Je fais l'exception.
Voilà. Exactement. C'est vrai que je vois avec mon père, je vois avec ses amis. On parle de tofu, en général, ils sont pas excités.
Hein. Pas fou de tofu, c'est ça.
Et ce genre de recette marche bien avec eux, parce que c'est ludique, c'est coloré, c'est croquant. On a plein de petits légumes différents. D'ailleurs, on peut mettre ce qu'on veut comme légumes, c'est assez simple.
Et ça s'appelle tofu sauté en coupelle croquante. C'est à la page 52 de votre excellent livre. Moi, ça a été un voyage à travers 400 pages dans lequel je me suis vraiment plongé assez longtemps. L'anthologie donc du tofu. Et comment vous traduiriez, car c'est une recette d'origine cantonaise, comment vous diriez en cantonais cette recette?
Senchabao.
Senchabao, ça veut dire littéralement coupelle en fait.
Bao, c'est enveloppé, c'est dans une feuille de laitue en l'occurrence, puisque ça vient de la région de Canton où on produit énormément de laitue, pas forcément les mêmes que chez nous d'ailleurs. Il y a une fête de la laitue, tout un festival de la laitue où on fait ce genre de préparation. C'est tout simple, c'est vraiment
super bon.
Des légumes sautés dans cette feuille de laitue fraîche. On met quelques assaisonnements. Là, en l'occurrence, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas de vin de Shaoxing. J'avais pas la sauce de soja clair. J'avais rien. Eh ben, un petit peu d'huile de sésame, du vin blanc sec, de la sauce soja normale, quelques graines de sésame. Et ça fonctionne.
Quelques champignons, ouais.
Voilà, on met des champignons et d'amamé, des fèves si on veut, du tofu ferme.
On sent la niçoise. Il y en a un qui connaît bien Nice aussi, c'est Christophe Morel. Hein.
C'est vrai.
Mais ouais, fèves et d'amamé, finalement, on est très proches. Hein.
Moi, je trouve que c'est super efficace. Bon, c'est bluffant, c'est efficace, c'est pas trop mariné, on arrive à déterminer le goût de chaque aliment, donc ça j'aime beaucoup.
J'essaye de pas les faire sauter ensemble pour que ça se mange pas trop les uns les autres.
Tu aimes bien?
Ouais, c'est vraiment super bon. Il y a vraiment un bon mélange de saveurs. C'est équilibré. Et honnêtement, au départ, je pensais que ce serait difficile à manger, mais c'est vraiment parfait. Même la laitue, enfin, c'est pas de la laitue,
c'est de la sucrine.
La sucrine, merci.
Oui, qui est dans la famille des laitues. Tu peux dire laitue.
Et super bonne aussi.
Et tu aurais envie de reproduire cette recette à la maison?
Oui, je pense que c'est un peu technique, mais.
Non, c'est pas compliqué du tout.
Et ben alors je veux essayer si j'ai la recette.
Mais non, justement, c'est pas technique, on vous a mis en ligne la recette sur franceinter.fr à la page on va déguster. C'est vrai que ça peut être une première approche tout à fait facile à l'apéritif en mode grignotage pour justement tenter d'apprivoiser un peu le tofu. Encore faut-il, et c'est un peu la question qu'on va se poser maintenant, le choisir bien. Longtemps vous m'avez dit Camille Auger que on n'avait pas trop le choix, soit c'était du tofu bon, soit c'était du tofu bio, mais jamais les deux à la fois. Est-ce qu'il y a eu un peu de progrès? Est-ce qu'on peut trouver, outre le tofu évidemment du Mans, dont on a mis toutes les références sur notre site, est-ce qu'on peut trouver dans un magasin bio ou dans une épicerie asiatique un tofu de qualité correcte?
Oui, et on fait de très gros progrès. Les tofus qu'on trouve dans les épiceries asiatiques sont pas forcément bio, mais certains le sont. Et ils sont en général très très bons. Dans les magasins bio, c'est un peu l'inverse. Souvent, ils sont évidemment bio, mais ils sont pas très bons.
Et c'est souvent des tofus d'ailleurs qui ne sont pas importés, mais des tofus made in France.
Voilà.
Avec, on va dire, un savoir-faire qui laisse un peu à désirer, c'est ça?
Bah, on a 1000 ans de retard sur les Asiatiques, donc il faut être modeste. Hein. On ne peut pas faire aussi bien qu'eux. Je pense que ça va venir. Et on a une belle marge de progression, mais il faut être humble quand même.
Pour quelles raisons ils sont pas bons?
Alors, c'est le choix du soja, déjà, qui est très important.
La matière première, évidemment.
Parce qu'en France, on fait du soja, on fait une variété de soja, plus ou moins.
D'accord.
En Asie, on fait des sojas spéciaux pour le tofu, on fait des sojas pour autre chose. Donc, on ne peut pas rivaliser avec ça, si vous voulez. Au niveau de la matière première, déjà, il y a un problème. Et si on faisait venir du soja d'Asie, ça reviendrait assez cher.
Mm-hmm.
Donc, on utilise souvent du soja de base français,
oui,
qui est garanti bio, mais qui n'est pas le meilleur soja nécessairement pour faire un bon tofu.
Et ensuite, il y a le problème effectivement de la fabrication avec
après,
des textures
voilà,
parfois un peu caoutchouteuses ou un peu spongieuses, un peu bizarres effectivement.
Oui.
Ça c'est quoi? C'est une question d'agent, parce qu'il faut évidemment des agents coagulants pour faire un fromage de lait de soja. Quel agent on utilise d'ailleurs?
En France, on utilise surtout le chlorure de magnésium, donc le nigari.
Alors ça peut faire peur un peu comme ça, mais c'est assez naturel en fait.
Ça se trouve dans la mer, en fait. Oui. Dans la mer, il y a chlorure de sodium et chlorure de magnésium. C'est ce qui fait que le sel de mer qu'on achète est un petit peu collant dans les doigts. C'est ça, c'est cet élément qui donne cette texture parfois un peu pégueuse, dirions-nous, oui, à Nice. Voilà.
Un peu collante, un peu gluante.
C'est ça.
Mm-hmm.
Selon les pays, on va plutôt choisir chlorure de magnésium ou sulfate de calcium ou gluconodeltalactone.
D'accord.
Ce sont les trois agents coagulants principaux qui donnent des choses assez différentes, qui donnent des résultats différents.
Alors moi, pour vous parler de mon expérience personnelle, régulièrement, je vais dans un magasin biologique et je trouve... J'ai pas évidemment vos références et en termes de voyage dans les pays asiatiques, même si je connais assez bien le Japon. Mais j'achète un tofu, on va dire, assez soyeux, qui aurait la texture d'une crème caramel dans une petite barquette qui se démoule assez facilement. Je le trouve effectivement très lisse en bouche et je l'utilise notamment pour faire une soupe miso et je le trouve de qualité très honnête. Il est fait en France.
On a des très bons, on a des très bons produits. Évidemment, de préférence, il faut acheter des tofu en France dans les magasins bio qu'on trouverait au rayon frais. Parce que ce qu'on trouve sous vide, hors du rayon frais, n'est généralement pas du tout de la même qualité.
Oui.
Et le tofu reste un produit frais, comme on disait, c'est comme le fromage. Donc, l'acheter sous vide, est-ce que vous achèteriez du fromage sous vide ?
Eh oui, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui se méfient aussi à l'idée d'aller acheter du tofu dans des épiceries asiatiques, précisément parce que ils pensent ne pas trop connaître l'origine des graines de soja qui ne sont pas bio. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de tomber sur du soja OGM issu de l'agriculture intensive asiatique ? Vous connaissez tous nos fantasmes ?
Les OGM, ça ne se fait pas là-bas de toute façon, et ce serait pas autorisé à la vente en France, parce que l'Union Européenne a des lois quand
même. Aucun risque. On peut aller aussi dans une épicerie japonaise, coréenne, chinoise pour acheter un bon tofu, même s'il n'est pas bio.
Il sera garanti sans OGM de toute façon. Et s'il n'est pas bio, en tout cas, peut-être qu'il sera très bon.
Très bien. Et puis, dernière petite chose, on apprend en lisant votre livre, et c'est d'ailleurs tout au début, on ne va pas pouvoir s'engager malheureusement dans des explications assez complexes, mais il est possible de faire son tofu à la maison, à condition évidemment de faire du lait de soja. Mieux vaut faire son propre lait en faisant tremper des graines de soja jaune, en les mixant ou en les pressant, plutôt que d'acheter du lait de soja qui en général comporte des additifs et qui va ralentir la fabrication du tofu.
Qui en tout cas donnera des résultats un peu faussés, parce qu'effectivement à partir du moment où on a des additifs dans le lait, normalement il nous faut un lait pur et dilué juste à la bonne consistance, la bonne richesse pour avoir le tofu idéal.
Mais c'est possible, on a mis le protocole, le mode d'emploi est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous commencez votre livre comme ça, mais on connaît pas beaucoup de monde autour de nous honnêtement qui se lance dans la fabrication du tofu à la maison, Déborah ?
Non, honnêtement, moi j'ai regardé depuis quelques années, c'est vrai que on franchit un cap. Mais comme les fromages frais, c'est pareil, c'est vrai qu'il faut trouver du lait cru, il faut être très très soigné au point de vue hygiène, ça demande quand même déjà une cuisine d'une certaine taille, long, c'est contraignant, non, il y a un moment où j'ai envie de dire chacun son métier.
Ou sinon, il faut avoir 2 étoiles au guide Michelin et être au fourneau de l'Abeille à Paris, restaurant gastronomique, où vous pratiquez le tofu, vous le faites même, Christophe Moret ?
Oui, on fait notre tofu soyeux nous-mêmes. Suzu Tofu nous livre le lait de soja, plus le nigari, et en fait on fait notre coagulation nous-mêmes et on s'en sert comme en fait une mayonnaise végétale ou comme un fromage blanc végétal. Et c'est la base d'un de nos légumes crudités, cuits et crus, qui est souvent à la carte. Ouais, qui est là.
Eh ben, on goûte en une seconde, et puis on va justement peut-être trouver un accord merveilleux en termes de vin avec Antoine Gerbel. Racontez-nous en un mot, c'est donc un petit mélimélo de légumes croquants.
Voilà, la plupart viennent de Carrières-sur-Seine, la famille Riant.
Oui.
Et on a les premières asperges vertes de chez Jérôme Galis, qui poussent sous serre non chauffée, et qui sont merveilleuses.
Elles sont délicieuses, absolument pas fibreuses.
Non, il fait un très très beau travail.
Et là, le tofu fait office de trait d'union.
Oui, voilà, c'est le lien, c'est ce qui va... Tofu soyeux.
Et on peut le faire à la maison avec un bon tofu soyeux qu'on trouve dans le commerce.
Oui, il suffit de l'agrémenter, de l'épicer un petit peu, de lui mettre quelques herbes, mettre un peu d'huile d'olive, de noix, ou ce qu'on préfère. Et en fait, ça vous fait tout à fait une sauce à manger remarquable.
Remarquable, et vous l'avez goûté ?
Oui, c'est moins salé en fait que les sauces auxquelles on est habitué en France.
Oui.
C'est un côté effectivement très soyeux, très doux, mais ça se marie très bien avec les légumes qui sont aussi un petit peu sucrés là. On sent que c'est le premier légume du printemps, quoi.
Ouais.
Et ça pourrait même se marier avec un certain vin blanc.
On va déguster sur France Inter.
On voudrait essayer de montrer qu'on peut recréer une activité économique sur ces collines abandonnées qui ne produisent plus rien, où l'homme même est parti, et garder tout en même temps, vous voyez comme on a fait, on a respecté le paysage, on a gardé les arbres, donc il y a aussi l'espace pour la chasse, l'espace pour la promenade et la vigne, c'est-à-dire montrer qu'on peut réhabiter ces pays abandonnés.
Pour montrer ce qu'était un paysage viticole d'autrefois.
Lydia et Claude espèrent réaliser leur première vendange en 2013, mais précise-t-il, il faudra quelques années de plus pour faire un grand Cahors.
C'était un extrait d'un reportage diffusé en 2009 sur France 3 où l'on entendait un couple célèbre de chercheurs qui se sont beaucoup intéressés à la Terre, au sol, Lydia et Claude Bourguignon, Antoine Gerbel.
Oui, je suis très heureux de pouvoir parler aujourd'hui à l'antenne de leur premier officiel vin produit dans le Lot. Je resitue un petit peu Lydia et Claude Bourguignon, ce sont des grands microbiologistes de sol qui ont agité la planète agricole et viticole depuis 30, 40 ans, bien avant la mouvance bio, bien avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils répétaient non-stop, regardez vos sols sont en train de mourir, vos sols sont morts, ils ont besoin du vivant. Et vous, je vous conseille d'aller sur internet, regardez, il y a pas mal de vidéos où Claude et Lydia explique le travail qu'il demande. C'est simple, en fin de compte, c'est presque de rien faire. C'est arrêter de retourner les sols, arrêter d'être hyperactif. Ils ont des mots durs, hein, parce que d'abord, ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement la langue française. Ce sont des littéraires et des scientifiques en même temps. Ce qu'on leur a reproché d'ailleurs, hein, parce que ils ont quitté le collège scientifique puisqu'il était foutu dehors, faut dire, de l'INRA à une époque. Parce que voilà, il était quand même, en gros, il disait aux paysans, n'achetez plus vos produits et mettez-vous à faire autrement. Donc, il a eu pas mal de soucis. Mais aujourd'hui, il est reconnu. Ils ont un laboratoire qui permet, par exemple, quand vous avez envie d'implanter un nouveau vignoble, ils viennent chez vous, ils analysent les sols, ils font des coupes, ils regardent surtout, c'est assez fascinant, les phases d'argile. C'est-à-dire que ce qui permet de dire que vous avez un sol plus ou moins approprié pour produire des vins blancs ou du vin rouge. Enfin, c'est passionnant. Je vous dis, si vous commencez à accrocher Lydia et Claude Bourguignon en vidéo, vous allez passer une nuit blanche. C'est passionnant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, les conseillers se mettent rarement en action. Théorie, on reste professeur toute sa vie, on théorise, on se remet des
consultants.
Fois. Consultant, voilà, la vie est belle. Et ben, pour eux, non, la vie n'était pas aboutie si ils ne devaient pas mettre en pratique vraiment leur savoir-faire. Et ça s'est passé, comme on entend, en 2009. Ils ont participé à la création de domaines. Ils en fait beaucoup. Vous savez qu'ils ont créé un vignoble à Venise, par exemple, sur une île de Venise. Un sol complètement vierge, où ils ont implanté un vignoble. Et dans le Lot, ils sont allés dans les années 90 pour créer le domaine Belmont. Et là, ils ont découvert des calcaires magnifiques qui étaient un peu en opposition avec les vins qu'on faisait. Vous savez, le Lot, c'est Cahors, c'était gros rouge, très puissant, mis en avant par ce cher Pompidou, président de local, qui en a fait ce vin un peu rustique de cette France de la fin des années 70. Et en allant dans le Lot, Lydia et Claude Bourguignon découvrent des sols qui n'ont rien à voir. Ce sont des sols très blancs, très calcaires, qui ressemblent à Chablis, qui ressemblent au Champagne, qui ressemblent un peu au nord de la Loire. Il dit c'est forcément des terroirs à blanc. Donc, ils cherchent, et effectivement, il y a 130 ans, il y avait des raisins blancs sur ces territoires. C'est magnifique, hein, c'est les terrasses du Lot qui ont disparu d'une certaine manière, puisque après le phylloxéra, les vignerons sont pratiquement partis sur la plaine, au ras de l'eau, donc des alluvions qui n'a plus rien à voir avec ce terroir historique. Eux, ils ont décidé de défricher. Alors là, quand je dis défricher, c'est même pas... Ils ont enlever les ronces, ils ont surtout pas retourné le sol, comme souvent on entend parler. Vous savez, comme il y a de la roche, on va enfoncer, on va péter le caillou dans tous les sens pour que la vigne s'implante. Non, eux, ils ont posé la vigne là où elle pouvait, ses racines pouvaient glisser au milieu du caillou, et ils ont créé ce vignoble. Alors ce vignoble, il est très étonnant parce que quand vous goûtez le vin, et c'est ce que je vais vous demander de faire maintenant, donc c'est un vin blanc qui a aromatiquement des notes un peu ensoleillées. On est en 2018, j'ai un millésime très généreux, donc vous partez sur des notes aromatiques, on est un petit peu très légèrement exotique. Et quand il rentre en bouche, vous avez l'impression d'avoir cette fameuse craie au milieu de bouche.
Voilà,
un concentré crayeux. Tout le caillou est au milieu du verre. Et ça, c'est je pense qu'ils sont émus de ça parce qu'ils ne savaient pas quand ils ont implanté ce vignoble.
Juste du caillou, là, ouais.
Sauvignon blanc, sauvignon gris, qu'ils ont été cherchés, par exemple, chez les Mélos à Sancerre, des vieilles vignes massales. Il y a aussi leur ami les Plageoles qui leur ont donné du Mozac et du Verdanel. Donc, c'est un assemblage.
Gaillac,
Plageoles. Un peu iconoclaste. Et voilà. Donc, c'est leur premier vin. Ils sont tout timides. Ils sont pas encore distribués. Je vais bien évidemment mettre sur le site de l'émission leurs coordonnées. Il n'y a pas encore d'agent qui les distribue à Paris. Il y a une cave à Bordeaux, une cave à Reims.
Mais 2018 est leur premier millésime.
Alors il y avait 2017, mais vraiment où ils ont un peu de vin. Voilà, ils peuvent vendre du vin. C'est en 2018.
D'accord.
Et il y a un rouge aussi magnifique. Pareil, il est complètement iconoclaste.
C'est à base de Malbec.
Il y a du Malbec bien sûr, mais par exemple il n'y a pas de tanate et ils ont remplacé par des cépages, notamment du Sud-Ouest, qui plutôt de le Sud-Ouest historique, toujours du côté de Gaillac et des Plageoles. Le message qu'il y a dans ce vin, c'est comment réhabiliter des terroirs oubliés. Comment redonner de la vie à des paysages? On n'est pas franchement en monoculture, hein. Il y a des arbres à peu près partout, on fait des productions assez légères. Voilà, c'est une autre vision du vin et ça leur correspond très très bien. Donc ça s'appelle la Roque d'Antan. La cuvée s'appelle Neffel. Neffel, c'est une déesse des nuages. Ouais. C'est en 2018 et en tout petit sur l'étiquette, vous voyez, c'est marqué famille Bourguignon parce qu'il y a Lydia, Claude et Emmanuel, leur fils, dans cette aventure.
Et ils ne font donc pas partie d'une appellation. Ils sont en fait en vin de France.
Exactement. Ils sont exactement en IGP du Lot.
Ah, IGP voilà. Du Lot.
Voilà.
Entendu.
IGP Côte du Lot.
C'est bon.
2018.
C'est pas trop cher, j'espère.
Ah. Ah. 30 euros, mais caviste, hein. Donc bien voilà, sûr. Le caviste prend sa marge et tout, 30 euros. Vraiment, découvrez ce vin, absolument.
Et surtout fait par, encore une fois, un couple qui a fait beaucoup pour promouvoir les sols vivants à la base d'une agriculture paysanne, l'agroforesterie, etc. Ils sont très impliqués dans toutes ces thématiques. Merci beaucoup, Antoine, pour cette très belle découverte. Dans un instant, la recette en détail de la cervelle de Canut végétale. On va également goûter, aussi bizarre que cela puisse paraître, des œufs maillots sans œufs. Mm-hmm. Enfin non, des œufs mimosa même.
Œufs mimosa.
Pour être plus précis, une tarte aux poireaux vegan. Comment est-ce possible? Et on a tout plein de questions sur la consommation. Est-ce que c'est si bon nutritionnellement pour la santé, etc. On répond à toutes ces questions juste après. Octave Noir avec Dominique A. J'ai choisi. Eh bien nous, on a choisi le tofu aujourd'hui dont on va déguster.
Je choisis de partir en avance. Je choisis d'être mu d'impatience. Je choisis l'océan qui s'avance. Je choisis.
Je choisis.
Vous êtes bien autour de la table dont on va déguster en ce dimanche 23 février sur France Inter, plein feu sur le tofu. C'est notre sujet du jour avec Camille Auger, créatrice culinaire, auteure de Tofu, l'anthologie aux éditions de la plage. Peut-être bien jusqu'à ce jour en français le livre le plus complet sur le sujet avec des dizaines et des dizaines de recettes passionnantes.
Ouais, c'est sûr.
Incroyable. Hein,
ouais, c'est une vraie mine de savoir.
Une vraie mine de savoir-faire absolument. Et Christophe Moret, chef 2 étoiles de l'Abeille au Shangri-La. Comment réagissent vos clients quand vous leur servez dans un palace parisien, parce qu'il faut bien le nommer ainsi, du tofu dans une recette? Est-ce qu'ils sont un peu réticents? Ils se moquent de vous? Ils crient au scandale?
Oh non, ils vont pas jusque-là. D'abord parce qu'ils ont confiance en moi, donc ça, je pense que c'est la base.
C'est sûr.
Un restaurant est avant tout fait pour ses clients. Un client, vous savez, des fois, vous invitez des personnes, vous ne connaissez pas forcément leur régime alimentaire. Et quand ils viennent manger chez nous, s'ils peuvent trouver un plat qui leur convient, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que la base de mon travail, elle est là. C'est se dire, je suis là pour mes clients, j'essaye de répondre à une attente. Et pour nous, le tofu, bah, en fait, moi, j'ai commencé ça en 2000, hein, donc je l'ai toujours conservé. Et le plus dur a été quand même chez Lasserre.
Vous avez effectivement été le chef de Lasserre, grand restaurant qui fait partie du paysage gastronomique parisien. Ouais. Mais là aussi, il y avait déjà du tofu chez Lasserre.
Ouais.
Donc là, il y en a un ou deux qui devaient vraiment tomber dans les pommes.
Là, c'était dur.
Ouais.
Là, j'avais affaire à des carnivores.
Qui était plus lièvre à la royale, même si on adore évidemment ce plat de lièvre à la royale, mais que on n'a pas encore fait notre conversion végane. Ouais. Moi, en revanche, en tant que Lyonnais, je risque de faire ma conversion végane avec l'excellence de cette préparation que je tiens à la main, une cervelle de canu à un pied de nez, à cette fameuse spécialité lyonnaise. Racontez-nous comment vous faites ça, c'est absolument délicieux. On croirait une espèce de yaourt ou de fromage blanc aux fines herbes.
C'est ça, c'est tout à fait ça en fait, hein, c'est le tofu soyeux qu'on fabrique nous-mêmes. Et après on va rajouter...
Alors on précise qu'on peut l'acheter de qualité dans des épiceries.
Oui, oui.
Mais quand on a ce tofu soyeux, comment on s'y prend?
Et après on le condimente comme on ferait la cervelle canue, hein, c'est-à-dire de l'huile de noix, de l'échalote, des herbes hachées, une pointe d'acidité, un peu de verjus. Là on a mis cerfeuil, ciboulette et je pense un peu de marjolaine.
Oui.
Pour amener un goût un peu plus complexe.
Ah, et un peu de verjus.
Ouais.
Là vous parlez du raisin vert pressé.
C'est ça. Pour mettre juste un peu d'acidité.
Ouais. Pour un peu d'acidité, si on n'a pas de verjus, ce qui n'est pas facile à trouver.
Une pointe de vinaigre, ça va. Une petite pointe de vinaigre, ça peut passer.
Quel régal, c'est vraiment délicieux. Antoine, est-ce que choisir le vin sur ce genre de plat dans un restaurant gastronomique, c'est compliqué, non? Avec du tofu, on brouille un peu les repères du sommelier?
Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs Christophe est accompagné par Mathias Ménard depuis Lasserre, hein, qui le suit. Et maintenant, il est aussi votre sommelier qui est aussi au Shangri-La. On a discuté ensemble. En l'écoutant, je me disais, le tofu, en fin de compte, c'est un peu une toile perméable. Hein. C'est comme un buvard, on pouvait faire un peu tout avec. Et c'est surtout ce que vous allez mettre à côté du tofu qui va servir à l'accompagnement. Donc lui, il m'a parlé de champagne, des champagnes blanc de blanc, chardonnay, assez vif, qui, on va dire, vont être en un léger contraste avec le tofu. Après, on a parlé des vins blancs très traditionnels, plutôt du Nord, hein, des Sauvignons de la Loire. Ou alors, quand on dit qu'on va sur des recettes un peu sur les épices, parce qu'on peut jouer avec les épices et le tofu, il m'a parlé des blancs de Crozes-Hermitage, mélange Marsanne, Roussanne. Oui. Donc, c'est quand même le condiment et l'accompagnement, ce côté buvard qu'a le tofu, qui va donner, c'est le juge de paix pour le sommelier.
Oui, parce que toute la difficulté du tofu, et vous l'écrivez très bien dans votre livre Camille Auger, et vous le dites joliment d'ailleurs, le tofu est une page blanche culinaire. La fadeur du tofu est presque son avantage dans la mesure où on peut le condimenter de plein de manières différentes.
Exactement. Le tofu ne sera jamais de la viande et c'est très bien parce que c'est autre chose. L'intérêt du tofu, c'est d'essayer justement d'utiliser cette fadeur comme on veut pour faire ce qu'on veut, du sucré, du salé. C'est quand même un aliment qui absorbe relativement mal les marinades. Il prend très bien le sel mais pas super bien les marinades, sauf si on le fait congeler. Si on le fait congeler puis décongeler, il se forme des petits trous, ça va complètement altérer la structure du tofu. Et on va se retrouver avec ce que les Chinois appellent tofu millefeuille, moi je dirais plutôt tofu mille trous.
Ouais.
Et là, il va boire les marinades et on peut le braiser ensuite à la poêle, on obtient des résultats saisissants. Ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose.
Vous dites que le tofu n'est pas de la viande, même si pas mal d'auditeurs nous signalent que cette légumineuse, le soja à la base du tofu, est très intéressante sur un plan nutritionnel et en termes d'apport de protéines, puisque c'est un des rares aliments qui remplace vraiment, enfin qui a tous les acides aminés.
Exactement. Pour quelqu'un qui est végane ou végétarien, c'est un excellent substitut à la viande, aux œufs, à tout ce qu'on mangerait pour avoir des sources de protéines. Alors non, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture que la viande. Parfois, on peut s'en rapprocher au niveau de la texture, mais c'est pas ce qu'il faut chercher. C'est simplement un autre aliment.
Notre aliment qui est par ailleurs, nous signale-t-on, riche en protéines, en vitamine K, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium, en manganèse, en zinc, en cuivre. Je casse un peu l'ambiance par contre, parce que pas mal de ceux qui nous écoutent nous signalent une polémique dont tout le monde a forcément entendu parler, c'est que le soja est accusé d'être un perturbateur endocrinien. Voilà. Alors il y a eu des études scientifiques, etc., parfois même un peu contradictoires. On court des risques à avoir les hormones en pétard, en gros, en dégustant du tofu. Dites-nous la vérité là-dessus, Camille Auger.
Les études qui ont été menées jusqu'ici sont totalement contradictoires. Les résultats donnent tout et son contraire. Le consensus, tout de même, c'est qu'une consommation modérée de tofu, on va dire 150 grammes par semaine, on risque absolument rien. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne va pas guérir de quoi que ce soit et on ne va pas mourir de quoi que ce soit.
D'accord. Voilà, j'ai dit perturbateur
endocrinien.
Endocrinien,
et pas endoctrinien.
Et pas endoctrinien. Par contre, on vous endoctrine en termes de tofu, notamment avec cette recette. Alors là, extraordinaire, je crois que c'est Déborah qui l'a goûté. Christophe Morel, intitulé de cette recette, dingue.
C'est l'okara, donc c'est le résidu. Okara, c'est le résidu de la presse du lait de soja.
Oui.
Donc en fait, c'est la pulpe de grains de soja qui restait. Et en fait, on s'est dit, il faut absolument les utiliser. En ce moment, c'est le potimarron, riz rouge de Camargue, bio, bien sûr, quelques herbes, une pointe de curry, un tout petit peu de quatre épices.
C'est bon.
Et juste, on a tout cuit ensemble au four, gentiment. Voilà.
C'est beau.
Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, si on ne le dit pas aux gens, on peut presque retrouver un peu de viande dedans. Enfin, on a presque l'impression d'avoir un farci.
Exactement.
Un légume farci tel qu'on le connaît.
Avec à la fois le goût et toute la profondeur aromatique, c'est absolument étonnant. Alors, on nous demande si on peut faire du tofu avec d'autres légumineuses que...
Oui.
Que du soja, oui.
Oui, oui. En Birmanie, on n'utilise pas le soja, on utilise les pois d'Angole ou les pois chiches.
Ah, la fabrication. Ça, c'est la niçoise. Ça n'a pas dû vous laisser de marbre, un soja de pois chiches.
Je suis tombée amoureuse vraiment du tofu birman. Il est jaune, il est ultra lisse. Si vous aimez les panisses, c'est la même chose en mieux.
Là, vous évoquez les frites de farine de pois chiches qu'on consomme à Nice ou à Marseille, d'ailleurs.
Exactement.
On a des choses à découvrir, décidément, quand on voyage en Asie. Va-t-on tomber amoureux de ces œufs mimosa sans œufs? Réponse avec Déborah Dupont, notre libraire gourmande.
France Inter. On va déguster.
Quelle prouesse, Déborah, qui nous racontait qu'elle était venue jusqu'à ce studio en vélo, en passant par les pavés de la place de la Concorde, qui ont mis à mal un certain nombre de vos œufs, et pourtant ce ne sont pas vraiment des œufs.
Tout à fait, et j'ai pris un gros risque aujourd'hui, parce que pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, François-Régis, vous avez quand même été président 2019 du jury du championnat du monde de l'association de sauvegarde de l'œuf maillot.
Mes copains vont me tomber dessus. Hein. Ça va être,
Là, je pense effectivement que nous allons avoir des réclamations.
Remarquez, puisque... vous allez pouvoir concourir. Non, non, à la prochaine édition 2020, vous arrivez avec ces œufs, moi je suis d'accord. Ça fait la blague, c'est super. Qu'en pense Baptiste? Il a goûté ces œufs maillot?
C'est super bon. Je trouve qu'on retrouve pas la texture de l'œuf, mais on retrouve exactement le goût.
Mais on approche quand même la texture du blanc, je trouve. Alors, on a un tout petit peu moins élastique.
Ferran Adria sort de ce corps.
Non mais c'est ça, c'est une sorcière, ou plutôt une druide.
Il faudrait gélifier un tout petit peu plus pour avoir la texture de l'œuf, mais on n'est pas loin.
On n'est pas loin, franchement.
J'ai pas voulu trop gélifier, effectivement, parce que j'aime pas trop quand c'est collé-collé. Et puis là, oui, ça a quand même beaucoup souffert pendant le transport.
Mais c'est étonnant, hein. Non, mais pardon, on vous donne la parole, Déborah, mais on a fait une découverte, là.
Ce qui est bluffant, c'est qu'au nez, ça sent l'œuf.
Oui.
Ça sent vraiment très très fort l'œuf. Mais je veux dire, c'est purement bluffant.
Et visuellement, on a affaire à un demi-œuf de poule comme un œuf dur, parsemé, saupoudré de
ce jaune.
Voilà, parce que la définition de l'œuf mimosa, Christophe Moret.
Mimosa, normalement, on passe les œufs au tamis et après on saupoudre nos œufs mayonnaise avec ça.
Et ça ressemble à la fameuse fleur qui pousse sur la Riviera côté de chez Camille Auger. Ouais. Déborah.
Donc en fait, cette recette est issue d'un livre qui s'appelle « Incroyable mais vegan », qui porte donc manifestement bien son nom, de Marie Laforêt aux éditions Alternatives, et qui est sous-titré « 100 recettes végétales carrément bluffantes ». Donc là, effectivement, point d'œuf dans cette recette, mais du tofu soyeux, du tofu extra ferme et de la crème de soja. Donc le tofu soyeux, en fait, on en prend 400 grammes qu'on va mixer avec 2 cuillères à café d'agar-agar, avec 75 ml d'eau et avec un petit peu de kalanamak. Et c'est le kalanamak.
De.
Le kalanamak.
Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare?
C'est du sel. Voilà, je connais sel rose de l'Himalaya, le sel noir de Hawaï. Donc là, ils appellent ça du sel noir de l'Himalaya, qui en fait est légèrement rosé, très très salin en goût, mais alors surtout une odeur d'œuf pourri absolument phénoménale.
Je sais pas le dire, produce of India. Ah ouais, waouh, c'est on va dire sulfuré.
Et donc il en faut une demi-cuillère à café. Donc vous mixez tout ça, ensuite vous portez à ébullition pour que l'agar-agar...
Le
condiment pourri. Donc vous portez cette préparation à ébullition 2 minutes pour que l'agar-agar puisse faire son travail, j'ai envie de dire, de gélifiant. Ensuite vous coulez ça dans des moules en forme d'œuf. Vous laissez prendre 2 heures au frais et il suffira de creuser les demi-œufs pour pouvoir ensuite poser la mayo. Alors la mayo, elle est faite à quoi ?
Non mais c'est dingue.
Elle est faite avec une cuillère à café de moutarde de Dijon, une petite gousse d'ail qui va être écrasée, 5 cuillères à soupe de crème soja. Vous mixez avec un mixeur plongeant et ensuite vous rajoutez un tout petit peu d'huile et vous montez une sorte de mayo en ajoutant votre huile. Et la mayo, elle se tient parce qu'alors elle a pareil, elle a supporté.
Mais regardez ça, incroyable. Attendez, là pour le coup,
elle est belle. En plus, elle a une belle couleur.
Elle a une belle couleur avec un petit peu de curcuma. Et alors pour le jaune, effectivement, mais c'est comme le mimosa, c'est-à-dire que c'est du tofu extra ferme, 30 grammes. Qu'on presse bien histoire de retirer au maximum l'eau, parce que c'est le problème souvent du tofu, c'est que ça rend un peu d'eau. On le passe au tamis et on rajoute un petit peu de curcuma, un petit peu de kalanamak et un petit peu d'huile et on obtient comme ça notre jaune d'œuf.
Non mais c'est dingue,
c'est fait.
C'est dingue.
Ah oui, c'est complètement incroyable.
Mais je vais essayer à la maison.
Est-ce que tu serais capable de faire la même chose avec un œuf meurette ?
Alors l'œuf meurette me paraît un petit peu plus compliqué, même si, pourquoi pas ? Non mais je pensais pas que ça allait être aussi simple. Et il y a plein d'autres recettes absolument dingues dans ce livre, où on se rend compte, en fait, on peut quasiment tout imiter. Et c'est ça ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas obligé non plus d'ostraciser les véganes. On peut faire des choses très intéressantes et le tofu s'y prête très bien.
C'est vraiment bluffant. Vous nous rappelez les références de ce livre, Déborah ?
Incroyable, mais vegan, Marie Laforêt aux éditions Alternatives.
Et précisons que Marie Laforêt, c'est un célèbre homonyme, mais ce n'est pas évidemment la chanteuse qui vient de nous quitter.
Non, c'est une autrice de livres de cuisine depuis des années qui est spécialisée dans toute la cuisine végétale.
Avec un sacré talent, et là vous venez de nous en fournir la preuve éclatante, incroyable. On finit par quelques tours de main avec notre amie Camille Auger qui nous a apporté une tarte végane aux poireaux.
En fait, ma mère fait une tarte aux poireaux géniale depuis que je suis toute petite. J'adore sa tarte aux poireaux. Et au départ, l'idée d'une tarte aux poireaux végane, ça me dérangeait vraiment parce que on ne touche pas au classique de maman. Et en réalité, simplement des poireaux, un oignon, du tofu, des noix de cajou, un peu de sel.
Ça, c'est l'appareil.
C'est l'appareil. Oui. Et en fait, l'appareil se tient mais parfaitement bien. On a vraiment un appareil de tarte salée où on pourrait faire des quiches comme ça. Oui, voilà.
C'est impressionnant.
C'est vraiment
qui fonctionne, alors qu'il n'y a quasiment rien. Ouais.
Et vous faites votre pâte maison. Alors, si on la veut vegan, de toute façon, la recette est en ligne. Mm. C'est incroyable. Vous savez ce qu'elle ose faire aussi, Camille Auger ? Ça, elle ne le dit pas parce qu'elle va se mettre tous les Niçois à dos. C'est une pissaladière. Vegan sans pissala, c'est-à-dire sans anchois, avec du tofu qui pourrait reprendre le goût de l'anchois, racontez-nous.
Du tofu fermenté, en l'occurrence, qui se trouve très facilement dans les épiceries asiatiques, qui a un goût très fort, très salé. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais en fait, parce qu'on l'utilise souvent pour aromatiser les légumes dans la cuisine chinoise, je me suis dit, mais ça pourrait marcher pour une pissaladière, ça a ce goût fort qui rappelle un petit peu les anchois, mais il manquait quand même le goût de la mer, donc... J'ai utilisé des algues, tout simplement. J'ai mis du kombu pour parfumer cette compotée d'oignons. Donc on a le côté fort, on a le côté salé, on a l'umami et on a le côté marin.
On est dans une pissaladière.
Et on a une pissaladière.
J'adore cette idée. Et dernier petit tour de main, nous sommes obligés de se quitter. En sucré, c'est d'ailleurs la dernière recette de votre livre, mousse au chocolat vegan avec du tofu.
Ça marche. On obtient un résultat étonnamment proche. Là aussi, j'étais dubitative. Moi, je ne suis pas végane. Hein,
donc
je me méfie des véganes qui disent « Mais oui, mais c'est pareil ». Non, souvent, c'est pas pareil. Là, pour le coup, c'est étonnant.
C'est étonnant. On mixe du tofu soyeux avec du sirop d'érable et on obtient une texture, une crème très lisse. On incorpore le chocolat fondu et on continue à mixer jusqu'à obtenir effectivement quelque chose de très mousse au chocolat. Mmh. Bravo. Écoutez, tous ces tours de magie nous ont vraiment convaincus autour du tofu. Je rappelle les références, chère Camille Auger, de votre livre « Tofu, l'anthologie à la plage ». C'est vraiment un très beau voyage, une exploration de cet aliment qu'on connaît peu en Occident, à travers des recettes à la fois coréennes, chinoises, japonaises, philippines. Il y en a vraiment dans tous les pays que vous avez visités, mais également des stratégies très modernes pour des recettes contemporaines à base de tofu. Christophe Moret, L'Abbaye, l'hôtel, la table gastronomique de l'hôtel Shangri-La à Paris, 2 étoiles au Michelin. On est dans une expérience assez hors norme. On connaît votre talent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez les références de ce tofu made in France que vous utilisez ?
Suzu tofu, ils sont au Mans.
Ils sont au Mans et on vous mettra d'ailleurs en ligne d'autres adresses de tofu parce qu'il y a quelques adresses que nous a conseillé Camille Auger pour se procurer un très bon tofu. Merci beaucoup Baptiste.
Merci aussi à vous de m'avoir accueilli.
Bon retour à Nantes. Merci Antoine, merci Déborah et à la prochaine. La semaine prochaine, on donne la parole à des néo-fromagers, des néo-paysans, des néo-poissonniers. Ils nous racontent comment ils se sont reconvertis dans un artisanat de bouche. Vous allez voir, c'est des parcours tout à fait passionnants. Et dans les fauteuils des chroniqueurs, nous aurons Dominique Hutin et Estherelle Payani. À dimanche prochain.